culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour à toi, cher auditeur, chère auditrice, bienvenue au Culte Espoir. Je suis vraiment ravi de te retrouver là où tu te trouves. Aujourd'hui, je serai accompagné de Mildred et d'Amandine. Bonjour les filles.
Bonjour.
Salut.
Vous allez bien ?
Nickel, super
très
contente
bien.
D'être là.
Super. Ici, nous avons le plaisir de revoir Ivan Dos Santos. Bonjour Ivan.
Bonjour.
Comment
merci.
Tu vas ?
Très bien, merci beaucoup pour l'invitation.
Tu reviens pour la quatrième fois aujourd'hui d'ailleurs. Merci pour ton endurance.
Bravo.
Auditeur, auditrice, si tu n'as pas encore eu l'occasion de l'écouter, je t'invite vivement à le faire. Dans un premier temps, il y a donc le culte qui parle. Dans un premier culte, ça parle donc de l'importance de la femme. Ensuite, de l'importance du baptême. Et enfin, l'importance d'une nouvelle opportunité aux yeux de Dieu. Rivan, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous allons réfléchir un peu à propos de la religion. Il est de plus en plus difficile de parler, surtout à la nouvelle génération, qui n'a pas eu de formation religieuse, des dieux. Ils vont regarder l'histoire du christianisme et d'autres religions. Ce n'est que des confusions, des guerres et, au nom de Dieu. Alors, nous allons réfléchir sur qu'est-ce que Dieu pense. Pourquoi ça a commencé, cette histoire des religions, et quel est le but essentiel de cet élément ?
Okay. Passionnant. Eh bien, j'ai hâte de t'entendre.
Merci.
Amandine, qu'as-tu envie de nous partager dans la chronique « Dieu dans ma semaine » ?
Lorsque j'ai vécu en Écosse, avant mon départ, j'avais vérifié s'il y avait une église adventiste là où j'allais vivre. C'était le cas, alors je me réjouissais donc de m'y rendre. J'arrive en Écosse et je décide ce jour-là de m'apprêter pour aller à l'église. Je mets un joli pantalon, un joli collier et me voilà prête pour découvrir une église que je voulais intégrer pour l'année. Cela ne s'est pas du tout passé comme prévu. Ce jour-là, j'ai été critiquée pour ma tenue, pour mes bijoux. Je me suis tournée vers les enfants. J'ai souvent trouvé que les enfants étaient les membres d'église les plus faciles d'accès pour intégrer une nouvelle église. Mais des membres sont venus les réprimander pendant que je leur parlais. Je ne sais plus combien de fois j'ai essayé de m'y rendre, mais je me sentais très mal. J'étais très mal à l'aise, voire choquée par les enseignements qui étaient prêchés. Alors j'ai décidé, notamment suite à une discussion avec mon beau-frère pasteur, à qui j'ai confié mon mal-être, et ça a été très difficile pour moi de ne plus y aller en fait. Je ne sais pas comment cette église a grandi depuis. Je ne connais pas tous ses membres, et je sais que Dieu les aime profondément, mais honnêtement, c'est le genre d'expérience qui peut faire fuir et décourager, voire blesser une personne qui cherche Dieu et qui n'a pas encore des racines solides dans la foi. Comme j'en ai témoigné il y a un an et demi, dans un des tout premiers cultes espoirs, le Seigneur m'a fait rencontrer par la suite des chrétiens fantastiques pendant cette année à l'étranger. Des jeunes étudiantes engagées qui vivaient des temps de partage autour de la Bible, étaient engagées dans l'aide sociale locale et qui, malgré leur confession différente de la mienne, étaient intéressées à savoir qui j'étais, qui voulaient entendre mon témoignage et l'ont pris au sérieux, qui m'ont apporté leur amour, leur soutien. Et je me suis posé la question, et me la pose encore, de savoir quand j'ai pu être moi-même comme cette église écossaise que j'ai visitée. Quand j'ai pu décourager ou juger par une forme de religiosité quelqu'un. Quand parce que le discours ou le comportement d'une personne me troublait ou me semblait mettre en question mes convictions, j'ai pu faire preuve d'hostilité. Et si toi, cher auditeur, chère auditrice, tu as pu ressentir cela de la part de l'église, eh bien pardon. Comme quasi chaque année, je demande au Seigneur de m'inspirer des mots-clés qui seront les leitmotifs de mon année. Et les deux mots qui me sont venus cette année, notamment grâce à la lecture de certains passages bibliques en janvier, sont humilité et service. C'est un vaste programme, merci Seigneur. Je trouve que ces deux mots résument bien qui a été Jésus sur la terre. Et je prie que l'Église, avec un grand E, puisse vivre la religion comme Jésus nous l'a enseigné.
Et Amandine, quelle est la promesse du jour que tu aimerais nous partager ?
Donc la promesse que j'aimerais te partager aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 58. C'est un livre de l'Ancien Testament. Il est question d'une pratique religieuse, le jeûne. Certains pratiquaient le jeûne, mais d'une manière qui ne plaisait pas à Dieu, car le cœur et l'état d'esprit de ceux qui le pratiquaient n'étaient pas en raccord avec ce que Dieu désire. Voici ce que Dieu dit, versets 6 et 7. « Le jeûne tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien. » C'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Et la promesse vient dans les versets qui suivent. Alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Quelle belle promesse et sans doute une piste à explorer de ce que pourrait être le cœur de la religion.
Merci Amandine pour la promesse du jour et pour faire écho justement à cette belle promesse. Je t'invite, auditeur, à chanter si tu connais ou simplement à écouter cette chanson de Gaël Kozandé qui dit « Libérer les captifs ».
Relevez les membres fatigués, faites tomber les chaînes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Libérez les captifs, relevez les membres fatigués, faites tomber les chaînes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Le bras du Seigneur est toujours assez long pour briser toutes les portes des prisons, de ceux qui sont prisonniers d'eux-mêmes. Pour eux, Dieu est toujours le même. Libérez les captifs, relevez les membres fatigués. Dans un coin de rue, le serviteur du Seigneur est venu. Il est porteur d'une bonne nouvelle. Il prend soin des désespérés. Il parle tout fort de liberté. Pour tous les prisonniers, les chaînes vont tomber. Il nous a laissé sa mission. Que comme lui nous rebâtissions toutes les ruines, toutes les ruines. Libérez les captifs, relevez les membres fatigués, faites tomber les chaînes. Au nom de Jésus. Le cœur accablé, Si tu t'offres toi-même à celui qui a faim, ne pense pas à recevoir avant de donner, et ta plaie ne tardera pas à cicatriser. Relevez les membres fatigués, faites tomber les chaînes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.
Auditeur, de quelle façon Dieu agit-il dans ta vie? C'est l'heure de la chronique Dieu agit. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Mario. Bonjour Mario.
Bonjour à tout le monde.
Sois le bienvenu.
Merci
et
beaucoup.
Voilà, je te présente un petit peu à nos auditeurs. Mario est né à l'île Maurice, ce lieu paradisiaque connu pour ses beaux paysages. Dans sa jeunesse, il est arrivé en Suisse, n'est-ce pas? Tu as grandi ici, tu as grandi dans une famille chrétienne. Tu croyais en Dieu et fréquentais en église. Mais d'après ce que tu m'as raconté, tu allais à l'église surtout pour suivre tes parents. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment a commencé ton cheminement avec Dieu?
Bon, quand je suis venu de Maurice, et puis quand je suis arrivé en Europe, comme on dit, il y avait plus de liberté. L'herbe, elle était verte ici, quoi. Vraiment. Et puis, j'étais marié. J'étais marié à l'église Le Réveil. Bon, je ne connaissais pas encore Le Réveil, c'était mon ex-belle-mère qui était Le Réveil.
D'accord.
Et puis, des années filent, et puis je commençais à me faire des amis ici, des Mauriciens, je faisais partie d'une orchestre. Et du moment que je fais partie d'une orchestre, on allait jouer un petit peu partout dans la Suisse.
Ok. Et c'était tu jouais de quel
Je chantais, puis je jouais au bongo.
Oh, wow.
Et puis, le problème, c'est que c'était du moment que je commençais à découcher de la maison, parce que j'avais deux enfants. J'ai eu deux enfants, c'est-à-dire qu'il va naître ça. Et puis, c'était vraiment la descente aux enfers, quoi.
Ah,
ça a commencé par la drogue, à boire l'alcool, beaucoup de drogue. Mm-hmm. Et puis, voilà, ça s'est collé comme ça jusqu'à ce que je suis divorcé. Et là, Dieu, je remercie à Dieu. Il m'a envoyé une main tendue. C'était Anna, ma femme actuelle.
D'accord.
Qui m'a vraiment tendu la main pour me sortir de là. Et puis, au début, on a fréquenté des églises brésiliennes que, bon, je ne comprenais que la moitié, je comprends bien, mais quoi, je ne comprenais que la moitié. Et ça n'allait pas. Je voyais qu'il y avait une manque à l'intérieur de moi. Et je voulais connaître Dieu, je voulais changer ma vie parce que c'était vraiment une descente en enfer, comme je viens de le dire. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, je retourne à l'église au réveil. Et là, quand je suis retourné au réveil, j'ai eu de la chance de connaître le pasteur Zenzen, qui m'a beaucoup aidé. Et puis Jacques Villegas, c'était le conseiller de l'église, qui moi aussi m'a beaucoup aidé. Ils ont su vraiment avoir les mots et vous les verser à me dire vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et de là, vraiment, je peux dire que j'étais touché. Et ça fait pas tellement longtemps, ça fait quoi, à peu près 4 ans que j'ai pris mon baptême.
Amen.
Et là, franchement, je suis heureux. Quand je vois vraiment le changement de ma vie, c'est énorme.
Ouais.
C'est énorme.
Ben oui, tu as sorti de la drogue, tu as sorti d'un monde de violence.
Voilà, voilà. Et puis, j'ai couru toujours, il y a des filles, des trucs comme ça. Mais là, vraiment, là, je peux dire que je suis heureux à 100% avec Dieu.
Mm-hmm.
Et il y a tout un cheminement. J'ai eu l'aide d'Anna. Et puis avec Anna aussi, au début, ça n'allait pas. Et puis il y a le pasteur, Zenzen, et puis Jacques Villegas aussi, qui nous a aidés. Vous voyez, une derrière l'autre, ça fait un enchaînement. L'autre qui est son prochain, vraiment, c'est vraiment incroyable. Quoi.
Donc Dieu a utilisé ta femme pour t'aider à sortir de cela. Même quand votre relation n'allait pas, ne fonctionnait pas très bien, mais tu as pu quand même être accompagnée par ton épouse, ainsi que
sûr.
Par d'autres, personnes.
D'autres personnes. Il n'y avait pas qu'elle, il y avait aussi d'autres personnes, tout. Je pense que c'est Dieu qui a envoyé tout ce monde, ce beau monde, comme on peut dire, pour vraiment pour me sauver de là. Et franchement,
quel rôle la religion, l'Église en l'occurrence, a joué dans ta vie alors?
L'Église, vous parlez quoi? Comme l'Église de réveil?
Non, l'Église où tu as commencé à fréquenter.
Et... l'Église que j'ai fréquentée, bon, c'était mes parents, ils étaient catholiques, mais bon, ils étaient très pieux. Et je peux dire que j'ai connu Dieu par rapport à cette église. Je ne peux pas régner l'église catholique. Mais bon, la pratique, après, à ce moment-là, du moment qu'on connaît bien la Bible, à ce moment-là, on voit des choses différemment. Parce que chaque personne, il voit la Bible différemment. Parce que c'est pour ça qu'il y a cette division. Pour moi, personnellement, je vois ça comme ça. Et puis, quand mes parents ils sont décédés, et puis quand j'ai connu Anna, il m'a expliqué, on lit beaucoup de Bible. À ce moment-là, j'ai pu faire la différence par rapport à beaucoup de choses. Et là, je suis allé vraiment dans ce cheminement, vraiment dans ce chemin, vraiment directement à Dieu, vraiment dans comment on peut dire.
Parce que là, c'était vraiment toi, finalement.
Ouais,
c'était
voilà,
plus la vie religieuse de ta famille
vraiment,
ou de quelqu'un d'autre.
Prier avec la Vierge Marie tous les jours, était obligé d'aller à l'église tous les dimanches. Et moi, je n'allais pas à l'église, j'étais plutôt bien sapé, et puis aller faire la coffee, voilà quoi. C'était plutôt ça, quoi. Mais... c'est vrai que quand on lit la Bible, on voit beaucoup de différences par rapport à beaucoup de choses. Quoi. Et ça m'a beaucoup touché.
Et c'est là l'importance d'étudier la Bible, de connaître véritablement Jésus-Christ.
Tout à fait, tout à fait. Et si je suis là aujourd'hui, faire ce témoignage, je suis très fier de le faire. Si ça peut toucher 2-3 personnes, ce sera avec beaucoup de plaisir.
Tu tiens à cœur de parler.
Je tiens de parler et sans qu'une honte. Franchement, non. Non, non. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, il s'est drogué, voilà, ici, voilà. » Mais moi, j'ai aucune honte. C'était mon expérience. C'était ma vie. C'était le passé. Maintenant, c'est autre chose. Et maintenant, je suis très, très fier, quoi.
Bah,
ah ouais, très
Dieu.
Content. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Mario,
merci
d'être venu, d'avoir partagé ton vécu avec Jésus. Et moi, je peux que te souhaiter une bonne continuation, que Dieu continue à t'inspirer et que tu puisses continuer à chercher Dieu à travers l'étude de la Bible.
Avec plaisir. Et je vous remercie infiniment à tout le monde de m'avoir laissé cette occasion de témoigner. Et si ça peut toucher des gens, ce sera avec amour par rapport à Dieu.
Amen.
Amen. Amen.
La relation que nous avons avec Dieu t'appelle à être sincère et authentique, sans faux semblant. Je peux faire plein de choses par automatisme, ou me donner bonne conscience, je peux jeûner tous les mois, prier tous les jours, sortir dans la rue, aider les pauvres, je peux même étudier pour élucider un certain mystère sur la vie, sur Dieu. Alors tu vas me dire, Brian, c'est déjà bien de faire tout ça. Oui, c'est bien. Mais si ce n'est pas avec l'amour de Dieu qui me motive, cela va sonner peut-être un peu creux. Il va manquer quelque chose. Cet amour est un amour qui n'a pas de fin. Et cet amour, c'est Jésus qui te la donne.
Si je n'ai pas l'amour, mes paroles sonnent vides. Mes champs de connaissances ne sont rien qu'une terre aride. Il est patient, plein de bonté, l'amour. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour n'aura pas de fin. Si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien à offrir. Une poignée de paille et du sable pour bâtir. La vérité le réjouit, l'amour, car
car il pardonne, il fait confiance, il persévère, espère l'amour n'aura pas de fin. Tous mes sacrifices ne me servent de rien si je n'ai pas en moi l'amour le plus grand est ce qui nous vient de celui qui donne même sans retour.
Alors, aujourd'hui, nous allons réfléchir sur cette question qui est intéressante, importante. Qu'est-ce que c'est la religion aux yeux de Dieu? Bien sûr qu'on ne peut pas répondre pour lui, qui sommes-nous? Mais regardons certains textes de sa parole pour essayer de découvrir pourquoi ça a commencé, cette histoire de religion, qu'est-ce que ça veut dire? Et dans la tête de Dieu, tel que nous voyons par sa parole, qu'est-ce qu'il pense de cela? Qu'est-ce qu'il veut? Amandine a commencé sa réflexion pour nous raconter son expérience en Écosse. Et comme elle n'était pas dans les gabarits de la pensée religieuse des gens, la langue là-bas a marché à 100%. Au lieu d'être content qu'elle était déjà là, une jeune et tout. Mais non, ils ont regardé une autre chose. Elle n'est pas assez religieuse, celle-là. Alors, j'aimerais offrir à toutes ces personnes, et à moi aussi, à nous tous, les premiers versets. Nous allons voir, pour résumer, que pour Dieu, le plus important, l'ultime, ce n'est pas notre relation avec lui. Je sais que je choque pour dire ça, c'est pour réveiller aussi ceux qui sont en train de dormir et qui nous écoutent. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas notre relation avec lui. Il n'a besoin de rien, il est déjà sauvé, il ne va jamais tomber malade, il n'a pas besoin d'être encouragé, d'être aidé. C'est que nous puissions nous aider les uns les autres, c'est nous qui sommes dans un bateau qui est en train de naufrager. Qu'est-ce qu'il veut? Le but premier, c'est de les chercher, ça c'est vrai. Le but premier de la religion, c'est d'avoir un contact avec Dieu, mais ce n'est pas l'ultime. C'est pour chercher sa force, sa puissance, son amour, une transformation de notre caractère afin que nous puissions aider les autres, les accepter comme ils sont et les aider. La plupart des bons religieux, Amandine, ils restent dans ces premiers pas. ils jeûnent. C'était les pharisiens à l'époque de Jésus et beaucoup d'autres religions que je ne vais pas nommer aussi qui existent encore. Ah, il est très religieux. Il fait ça, ou même des adventistes qui gardent les sabbats, qui ne mangent pas ça, qui prient les matins, il ne sait pas quoi, qui versent la dîme. Il reste dans ses premiers contacts avec Dieu. Mais ça n'a aucune importance si on ne continue pas. Et pour l'autre, qu'est-ce que tu fais? Alors, les premiers versets. Si quelqu'un, Jacques 1, 26 et 27, qui a vécu avec Jésus, c'était son frère, qu'il a bien connu. Si quelqu'un croit être religieux, il ne sait pas maîtriser sa langue, on t'a critiqué là, hein, en Écosse, il se trompe lui-même. Sa religion ne vaut rien. C'est la Bible en français courant. Voici ce que Dieu, le Père, considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse, c'est garder de toute tâche Dieu à l'influence de ce monde. Nous voyons que le but ultime, c'est les prochains. Nous allons voir que tout a commencé. Religion, ça veut dire en latin relier, relier l'homme à Dieu. Parce que cette relation a été cassée. Avant, l'homme voyait Dieu face à face. Il venait tous les après-midi, comme dit la Bible. Il parlait. Et la Bible nous dit en Genèse 3, 8 à 12, « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, les couples, hein, Adam et Ève, qui parcouraient les jardins et les cherchaient, bien sûr que Dieu savait où ils étaient, mais bon. « Se cachèrent loin de la face de l'Éternel. » Voilà les premiers actes du péché, c'est de délier l'homme de Dieu. Première chose, ils sont déliés.
La séparation.
La séparation. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur. » Deuxième chose, on a peur de Dieu. On a peur, on n'est pas assez juste. Parce que je suis nu, je me suis caché. Vous connaissez Jésus. Et Dieu a dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé des larves? Bon. Troisième, première chose, avoir peur.
Être séparé.
Séparé, avoir peur. Et là, il va accuser. Il va utiliser sa langue pour accuser Dieu et l'autre, la femme. Cette femme merveilleuse, comme on a vu il y a quelques semaines, que Dieu a créée pour lui, un cadeau merveilleux pour compléter la création. Qu'est-ce que l'homme a dit? C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné et j'ai mangé. Alors, ce n'est pas ma faute, c'est toi, la femme. Première chose, c'est mettre la faute sur les autres. Et c'est ça que Dieu voulait casser. Qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel Dieu fit Genèse 3, 21, tout de suite, à Adam et à sa femme, des habits de peau. Il les en est revêtus. Revêtus. Ça veut dire que, voilà, il a eu un sacrifice, une demande de pardon. Il faut arrêter ça. C'est vrai que ta femme, mais elle a été trompée. Toi, tu n'étais pas obligé de manger. Mais je comprends que tu l'aimais. C'est même très beau que tu préfères mourir avec elle. Mais ne mets pas la faute sur l'autre. Voilà, Dieu qui va, premier acte de la religion, c'est Dieu qui va essayer de relier l'homme avec lui pour qu'il puisse avoir une bonne relation avec les autres. Lorsque Dieu a appelé Abraham pour commencer tous ses ministères, Genèse 12, 1 à 4, je vais résumer. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans les pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Maintenant, c'est le plus important. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. La Bible en français courant. Pour les autres. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Voilà les buts. Malheureusement, Israël et Judaïsme n'ont pas compris. Ils pensaient, nous sommes le peuple de Dieu, c'est nous, le salut, c'est pour nous. Non, c'était pour être une bénédiction. Et la Bible dit qu'Abraham avait 75 ans quand il accepta cette proposition de Dieu. Et j'aimerais vous lire Apocalypse 7, 9 à 12, qui est à la fin de la Bible. Quelle a été la conséquence de cet appel? Ça a marché. Un jour, Abraham va voir qu'il a été père d'une nation. Après cela, je regardais, j'ai vu une foule immense de gens qui personne ne pouvait compter. C'était des gens de toutes nations. Dieu avait dit, tu seras une bénédiction pour toutes nations, pour tous les peuples, de toutes tribus, de tous les peuples, de toutes langues. Ils se tenaient devant les trônes et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes de victoire à la main. Ils criaient, le salut vient à notre Dieu et à l'agneau. Et qui est cet agneau? Les fils d'Abraham. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Matthieu 1:1? Liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David, lui-même descendant d'Abraham. Voilà, à partir de toi, Abraham, je vais bénir toutes les nations et par Jésus-Christ. Et la Bible nous dit en Jean 1:29, le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. La promesse s'est accomplie. C'est comme l'histoire du baptême qu'on a vu, c'est pour être une bénédiction pour les autres. Et j'aimerais juste vous lire quelques versets que Jésus nous avertit à propos de cela. Parce qu'à cette époque, tout le monde était très religieux autour de lui. Tout le monde connaissait la Bible, l'Ancien Testament par cœur et gêné. Voilà. La Bible nous dit en Luc 18:9-14. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Aujourd'hui, ça serait un prêtre, un pasteur, un religieux pratiquant. Et un autre collecteur d'impôts. C'était des gens, des juifs, qui collaboraient avec Rome pour collecter les impôts, parce que Rome ne voulait pas se salir. Alors, ils collectaient les impôts, ils étaient haïs. Les pharisiens, debout, priaient. « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. » qui sont voleurs, mauvais, adultères. Je te remercie aussi. Je ne suis pas comme ces collecteurs d'impôts là à côté de moi qui prient aussi. Je jeûne deux jours par semaine et je te donne les dixièmes de tout ce que je gagne. Waouh, très bon religieux là. Parfait, il ne mentait pas. Les collecteurs d'impôts à côté, lui se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, frappait sa poitrine et disait « Oh Dieu, pitié de moi, je suis un pécheur. » Et Jésus dit « Vois, c'est cet homme qui est rentré chez lui, pardonné, justifié, et pas l'autre. » Alors, première chose, vous voyez que la religion que Dieu veut, c'est l'humilité et pour les autres. Et un jour, un homme a demandé à Jésus, Matthieu 19:16-22, il a dit, « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus a dit, « Si tu veux entrer, obéis au commandement. » Waouh, les adventistes là sont forts alors, on va tous. Obéis les commandements. Et il a dit, « Ok, et Jésus va citer quelques-uns. » Et bien Jésus va dire un commandement qui n'est pas là, mais qui est dans l'Ancien Testament, mais qui ne fait pas partie des 10 directement. Voilà, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages, etc. Aime ton prochain comme toi-même. Dans les Deutéronomes et Lévitique, nous avons ça. Aime Dieu et ton prochain. Et la personne a dit, j'ai obéi à tous ces commandements-là. Et Jésus voulait montrer que non. Tu penses que tu aimes les autres, alors tu es super riche. Alors pour toi, vends tout ce que tu as. Ne demande pas de tout le monde, mais toi, je vais prouver que tu n'aimes pas les autres. Vends tout ce que tu as, donne aux autres et tu m'y suis. Et la Bible dit qu'il est parti tout triste parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il ne voulait pas.
Il avait beaucoup de biens.
Voilà. Il disait, moi j'ai fait ça. Et un verset que j'aime particulièrement, c'est Matthieu 5:23-24. Concentrez-vous bien. C'est Jésus qui dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, là au temple, à l'église, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, maintenant, laisse là ton offrande devant l'autel, les détails de la Bible, c'est ça qui est beau. Et va d'abord te réconcilier, puis viens présenter ton offrande, sinon je n'accepte pas. C'est ça que Dieu dit. Si l'autre est brouillé avec toi, il ne veut pas parler avec toi, c'est son problème. Mais au moins, tu as fait ton pas. Mais là, le but de la religion, d'abord, c'est d'être en paix avec les autres. Et pas directement avec Dieu. Et j'aimerais lire les derniers versets. Quelqu'un, un docteur de la loi, un théologien de l'époque, a dit à Jésus, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» À nouveau, Jésus dit, « Qu'est-ce que dit notre loi ? Qu'est-ce que tu y lis ?» Et l'homme a répondu, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Et tu dois aussi aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus a dit, « Bravo, tu as bien
tu
répondu.
As tout compris.
Fais ça et tu vivras. » Voilà ce que c'est la véritable religion. Aller auprès de Dieu, chercher sa force, son amour pour donner aux autres. J'aimerais conclure en 10 secondes pour vous dire, vous, si vous êtes parent, même si vous ne l'êtes pas, vous pouvez imaginer cet exemple. Vous avez plusieurs enfants et il y a un enfant qui ne veut pas parler avec l'autre, qui se brouille, qui les critique. « Mais viens chez toi, papa ou maman, c'est ton anniversaire cadeau, je t'aime et t'embrasse. » Mais ne veux pas parler avec l'autre frère. Est-ce que tu es content avec ça?
Ah non.
Et il y a un autre fils qui n'est pas le plus avec toi parce qu'il s'est brouillé, mais il parle avec ses frères et les aide et tout. Lesquels de deux vous préférez? Alors, que la religion pour nous soit cherchée auprès de Dieu, par la lecture, par tous ces rituels, la force pour donner, encourager les gens qui sont autour de nous, ça, c'est la véritable religion, selon la Bible.
Chers auditeurs, si tu viens de te connecter, sois le bienvenu au Culte Espoir. Aujourd'hui, nous recevons Rivan dos Santos, qui est professeur d'histoire et d'archéologie à la Faculté Adventiste de théologie à Collonges-sous-Salève. Nous parlons de la vraie religion et l'objectif principal de celle-ci. Comment Dieu voit la religion ? Pendant quelques minutes, Rivan nous a apporté son point de vue basé sur la Bible. Et maintenant, j'aimerais connaître l'avis de mes amis sur le plateau. Amandine, Brian, que pensez-vous de ce sujet?
Alors écoute, moi ça m'a interpellé l'idée de devoir... Enfin, tu as parlé du fait que la religion c'était dans le service, etc. Moi j'ai aussi, dans mon expérience, puis j'ai vu autour de moi des gens qui s'évertuent à être dans le service du coup, mais en oubliant la première partie, à savoir aller puiser sa force en Dieu. Mmh. Parce qu'en fond, pour servir comme Jésus a servi, dans un altruisme, dans un amour, dans un non-jugement, etc., je pense que c'est inhumain. Et je me dis, enfin en tout cas pour ma part, des fois je suis fatiguée, je suis découragée, ou dans le service, c'est pas forcément je sers et puis l'autre en face va être oh t'es trop bien, enfin des fois c'est dur hein, de servir et l'autre en face il rend pas forcément de la manière dont tu aimerais ou tu attends de l'autre justement une reconnaissance, ou... alors qu'en fait je sers parce que j'aime Dieu et que Dieu me remplit et me fait servir à des endroits que j'aurais pas pensé et puis d'une manière que j'aurais pas pensé et avec une force que j'aurais pas pensé, et donc du coup voilà. Ça m'a fait réfléchir à ça, sur l'importance mais de ne pas tomber dans cet extrême-là.
Le lien avec l'être humain, avec l'autre, n'est pas toujours simple. On peut avoir très envie, on peut avoir cette, comment dire, de bonnes intentions, mais au moment où on rentre en relation, ça dépend comment l'autre te répond, ben on oublie tout, en fait. Et c'est là, peut-être, qui est le point où nous avons besoin de travailler. Et c'est là où Dieu... Peut-être c'est là où il aimerait nous molder, il aimerait travailler notre caractère, parce que c'est de cette façon qu'on pourra avancer, qu'on pourra aller de l'avant.
Moi, quand tu as parlé tout à l'heure, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'histoire de... alors, je crois que, sauf erreur, c'est dans le livre des Actes, l'histoire de Pierre et de Jean quand ils vont au temple avec le paralytique. Et donc, l'idée que... Ben voilà, ils ont eu cette vie auprès de Jésus et ils vont aller auprès de ce paralytique lui dire ben, je n'ai rien à te donner mais ce que je peux te donner je te le donne. Je crois que c'est la même phrase que Jésus dit qu'il utilise, et voilà, c'est ce que tu disais, c'est finalement cette relation que Pierre et Jean ont eu avec Jésus, ben, ils l'utilisent, et en plus de ça en faisant ben, ce miracle qui en fait finalement le paralytique qui a eu la foi de se mettre à marcher. En plus de ça, la suite du verset dit que Pierre et Jean l'accompagnent dans le temple et ils continuent dans le temple. Et il y a cette forme d'accompagnement que tu disais, d'aller encore un peu plus loin dans ce que nous faisons, en fait. Voilà.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, hein, ils sont dignes aussi, parce que l'Esprit de Dieu travaille avec tout le monde, même ceux qui ne les connaissent pas, et qui font beaucoup d'œuvres de charité partout, et c'est très louable. Mais ce que Dieu nous propose, comme tu as dit, Amandine, c'est en dehors de nos capacités. L'amour que nous puissions avoir pour un enfant, pour une maman, pour une femme, un mari, donner la vie pour une personne, ça c'est une chose, c'est naturel. Même les animaux, tu ne t'approches pas d'une ours hein, qui a ses petits, elle va les défendre. Mais Dieu propose d'aimer les prochains comme nous-mêmes. Et en plus d'aimer nos ennemis, aimer. Aucune religion du monde n'est jamais allée aussi loin. Le bouddhisme s'est approché. Elle a dit, si quelqu'un te fait du mal, ne le fais pas. Un retour, ne fais pas, mais ne dis pas, va l'aimer. Et ça, c'est une capacité que l'être humain ne possède pas, qu'il faut le chercher auprès de Dieu.
Ça vient de Dieu.
Et de Dieu, il faut le chercher auprès de lui. On peut être dans l'aide humanitaire, faire le bien partout. Mais comment est-ce qu'on va accepter la différence de l'autre, la critique. Quand je vois des politiciens, des gens tellement bien placés, tout le monde se tape dessus, se critique, ne voit jamais rien de positif de l'autre, et tout le monde veut servir. Alors je pense que ce que Dieu propose, comme tu as dit, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une capacité qui, même dans notre tête, je ne vais pas critiquer cette personne. Ça ne va pas sortir de ma bouche, cette critique. C'est quelque chose qui nous transforme vraiment. Il faut chercher auprès de Dieu cette capacité-là.
Mais c'est ça, il faut... Je pense que le seul moyen, c'est vraiment de reconnaître que nous avons véritablement besoin de Dieu et de lui demander de nous donner cette force. Et il faut travailler, hein, je pense. Il faut travailler constamment, tous les jours, être constamment en lien avec Dieu à travers la prière, à travers l'étude de la Bible.
La religion aussi, c'est dans la maison, hein, quand on a des problèmes, qu'on a les chômages,
c'est la religion la plus
qu'on est malade,
celle-là.
Avec l'épouse, avec les enfants, adolescents ou non. Comment est-ce qu'on va... Il faut une force spéciale de Dieu pour maintenir la paix, maintenir... On ne peut pas être parfait, mais nous devons toujours nous approcher. Sinon, c'est les conflits, c'est la bagarre, c'est la confusion tout le temps. Et après, on sort et on va servir les autres.
C'est ça. Mais être... chrétien, être religieux, avoir ces beaux discours à l'extérieur,
c'est facile.
Mais c'est à la maison qu'on passe vraiment dans la preuve du feu. Merci beaucoup en tout cas pour vos partages. Que Dieu continue à nous bénir et qu'il soit avec toi, cher auditeur, toujours à t'inspirer dans ce cheminement avec Jésus-Christ.
Amen. Alors dans cette chronique Dieu dans les arts, j'aimerais te parler d'une série qui est très en vogue en ce moment. Elle s'appelle The Chosen. C'est une série évangélique qui est entièrement financée de manière participative en ligne. L'objectif est qu'en collectant des dons pour la produire, des millions obtenus depuis le début de la campagne, cette série à la qualité audiovisuelle implacable puisse être en libre accès gratuitement sur Internet. Alors vous la retrouvez sur le site The Chosen en anglais et elle est passée également en français sur la chaîne française C8 en décembre dernier. Cette série parle de l'histoire de Jésus à travers le regard des disciples. Forcément, certaines libertés ont été prises dans la narration et il faut bien entendu avoir la Bible à la main comme référence et ne pas oublier d'y revenir pour ne pas confondre certains éléments de fiction de cette série avec l'histoire telle qu'elle nous l'est racontée dans la Bible. Mais l'objectif de cette série est clair. Mettre en lumière Jésus, notre Sauveur, montrer son ministère sur la terre et partager son message au plus grand nombre. Je te laisse écouter la bande d'annonce de la saison 1.
Je vais vous raconter une histoire.
Tu crois que des choses impossibles peuvent se produire?
Des miracles?
Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu.
Je suis vraiment navrée, mais je ne sais même pas ton nom.
Je suis Jésus. Pour certains, peut-être.
Je l'ai vu. C'était vraiment incroyable.
Je veux savoir si on a un problème.
Cet homme a prétendu être Dieu de fausses prophéties.
Donc je te repose la question. Existe-t-il un problème, le soi-disant faiseur de miracles?
Jésus de Nazareth.
Comme quoi, il y a parfois de bonnes choses qui viennent de Nazareth.
Si on est obligé de se poser des questions chaque fois qu'on fait quelque chose d'inhabituel, ce voyage va être très pénible pour nous tous.
On y va, allez !
Il y a des hommes justes qui te surveillent. Ils sont à l'affût et pèsent chacun des mots que tu peux dire.
Ce n'est pas pour toi. Vous devez agir différemment des autres.
On ne l'a pas choisi. C'est lui qui nous a choisis.
Je te vois.
Oh, je n'aime vraiment pas cet homme.
Suis-moi, tu en verras plus.
J'étais sur un chemin, et aujourd'hui mon chemin est tout autre. Et ce qui a provoqué ce changement, c'est cet homme.
C'est l'heure, ça y est.
En route.
Alors voilà, il y a 2 saisons pour le moment et le réalisateur espère en faire 7.
Du coup, quel lien y a-t-il entre cette série et notre thématique du jour?
Oui, je comprends ta question, j'y arrive. On retrouve très bien dans cette série le conflit entre la religiosité, notamment des pharisiens, avec la religion telle qu'elle est vécue et enseignée par Jésus. Un personnage d'ailleurs, Nicodème, incarne très bien ce conflit intérieur et extérieur. Je me rappelle aussi d'une scène dans la saison 2 où l'on voit des pharisiens prier à voix haute de manière très visible dans la rue et les disciples, ils passent à côté et se demandent qu'est-ce qu'ils sont bien en train de faire. Et à côté de cela, il y a Jésus, plein de grâce, d'amour, de compassion, qui va guérir les malades, bénir, enseigner, encourager. On voit agir le maître de la communication non-violente et de l'art de la révolution non-violente dans le respect de la liberté d'autrui et dans un amour inconditionnel. Personnellement, cette série m'a fait du bien et je la recommande.
Eh bien, personnellement, rien que d'entendre ça, ça me donne envie de marcher à ses côtés. Oui, Jésus m'incite à me tourner vers les autres, à ne plus juger, à ne pas mépriser, à pardonner l'autre. Walk in Love de Gwen Dresser est une chanson qui donne envie de marcher aux côtés de cet amour-là que Dieu nous donne. Un amour qui a triomphé et qui triomphera toujours.
penché sur ta figure, tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout, oh killer, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement. L'amour triomphe toujours. Oh, Kilo, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher.
Nous arrivons au moment de prière, un moment qui nous permettra d'intercéder pour notre assemblée de chrétiens, pour notre relation avec Dieu et envers les autres. Je vous invite, si vous le voulez bien, de prier ensemble. Et Rivan, souhaiterais-tu conclure ce moment de prière ? Prions. Seigneur, dans ta parole, tu me dis d'aller vers la veuve, vers l'orphelin. C'est si facile à dire et parfois si difficile à faire, parce que j'ai peur, parce que je veux rester dans ma zone de confort, parce que c'est difficile de me lancer dans une chose que je ne maîtrise pas. Mais Seigneur, par Jésus, tu nous montres comment nous pouvons agir, comment être en marche. Puisses-tu nous donner ce désir d'aller hors de nos murs, hors de notre façon de penser, de nos préjugés, tourner vers l'autre, car tu dis que ce que je fais pour l'autre, c'est à toi que je le fais.
Mmh. Seigneur, je te confie certains et certaines de nos auditeurs et nos auditrices qui peut-être ont souffert de la religiosité de certains proches, qui notamment à cause de cela ont été découragés ou se sont sentis jugés et ont par conséquent pris de la distance avec toi, Seigneur. Alors viens leur révéler qui tu es, ton amour, ta compassion, ta bonté, viens les restaurer dans leurs blessures et pardon, Seigneur, de ce qu'en tant qu'Église, parfois, nous te desservons par notre attitude, par notre orgueil.
Oui, merci, mon Dieu, pour ton amour. Merci Jésus-Christ d'être venu sur terre nous montrer l'essentiel. Tu as mis en évidence que le plus important, c'est de t'aimer et d'aimer son prochain. Aide-nous à avoir un mode de vie fondé sur tes enseignements. Nous voulons être véritablement comme toi, Seigneur Jésus. Viens remplir nos vies de ta présence.
Oui, Seigneur, merci de nous donner ce don merveilleux de t'aimer. Cette envie de te connaître, connaître ton Fils, à travers ta parole, afin que nous puissions avoir aussi ce don merveilleux d'aimer notre prochain. Aide-nous, Seigneur, à devenir des instruments de salut. Nous te remercions et nous te prions de venir tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, d'une façon spéciale. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Et c'est parti pour notre chronique Action. Alors Mildred, que nous proposes-tu?
Alors, une décision peut nous mener à une action. S'engager pour Dieu, c'est chercher, grâce à son esprit, un équilibre de vie, un juste milieu. S'engager pour Dieu, c'est aussi suivre l'exemple de Jésus qui était constamment au service des autres, tout en se préservant des moments, des temps de face à face avec Dieu son Père. Aujourd'hui, je t'invite à faire un petit bilan perso de temps qui constitue ta vie. Si tu devais représenter tes occupations sur un graphique du genre un camembert, quelle serait la portion de ton camembert attribuée à 1. Temps pour le travail. Temps pour les tâches du quotidien, ménage, faire à manger, s'occuper des enfants, faire les courses, travailler dans le jardin. Temps pour Dieu en intimité. Temps pour des projets pour Dieu. Temps pour les proches. Temps pour les autres, comme pour les projets solidaires. Une fois ce petit camembert dessiné avec ses différentes portions, il est l'heure de faire ton bilan. Est-ce que c'est réparti d'une manière équilibrée et saine? Est-ce que cela correspond à ce que Dieu a mis dans ton cœur pour ta vie? Tu peux prier pour demander à Dieu si tu penses qu'il faudrait faire des réajustements. Demande-lui de te guider et grâce à son aide, mets en place des ajustements.
Eh bien, merci Mildred, ça donne envie en tout cas. L'idée du camembert, moi, ça me...
Ah ouais.
C'est parfait. Nous arrivons déjà à la fin de notre culte, la fin d'une série de 4 cultes à écouter sans modération. Merci à Rivan Dos Santos de nous avoir accompagnés tout ce mois.
Merci à vous tous.
Merci à Amandine et Mildred pour vos chroniques. Merci, chères auditrices, Brian. Chers auditeurs, merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce culte. Et si ce culte t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, que nous soyons de plus en plus nombreux à partager ces temps ensemble. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Ciao.
Ciao.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.